Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacré.
Amis auditeurs des dialogues sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invité aujourd'hui est un colonel de gendarmerie, polytechnicien de formation, homme de terrain, passionné des missions du quotidien et de leur poids d'humanité. Il relate son expérience au cœur d'événements ayant pour point commun de l'avoir confronté à la mort dans un livre intitulé « Face à la mort, le témoignage inédit d'un gendarme » qui s'est paru aux éditions du Rocher. Rémi Nollet, bonjour.
Bonjour.
Alors, le premier élément, moi, qui m'a beaucoup marqué en vous lisant, c'est la grande humilité qui caractérise votre relecture de tous ces événements. Vous allez même parfois jusqu'à dire que vous n'en auriez pas fait assez, ce qu'on a peine à croire. Alors, est-ce que vous considérez, vous, personnellement, que l'humilité est une condition à une authentique humanité?
Je pense que quand on aborde des sujets aussi sensibles que la mort, il faut justement de l'humanité et de l'humilité. Parce que face aux personnes qui sont en souffrance, face aux personnes qu'on essaie de secourir, face aux personnes à qui, malheureusement, il nous arrive d'annoncer des décès, face aux victimes dont nous recueillons les plaintes et que nous accompagnons, eh bien, nous avons besoin de beaucoup de ressources d'humanité. Et pour être dans cette humanité, pour être dans l'empathie, je pense qu'il faut être très humble et il faut être capable de se remettre en question. Je parle souvent de la nécessité de débriefing entre nous, avec parfois des soutiens plus professionnels, plus techniques quand on en a besoin. Parce que si on croit qu'on est suffisamment fort là-dessus, qu'on est robuste, qu'on sait faire, eh bien, on risque soit de provoquer ce que j'appelle un suraccident, c'est-à-dire une maladresse, une indélicatesse qui peut être terrible pour une victime ou pour une famille à qui on annonce un décès, par exemple, soit se mettre en danger soi-même. Que quand on est au quotidien confronté à la mort, et pour les gendarmes, c'est une mort violente, par définition, oui, eh bien, on court ce risque aussi.
Alors, vous dites que dans votre mission, il faut oser la délicatesse, l'empathie, et du coup, se montrer réceptif à la souffrance des gens, et vous concluez donc s'exposer. Et moi, je voudrais vous demander, comment ne pas aller trop loin dans cette direction-là?
Je pense que dans tout métier militaire, et plus largement presque dans tout métier en uniforme, on accepte une part de risque. Donc, on est quelque part obligé de s'exposer, mais comme quand on prépare une mission dangereuse, eh bien, on fait attention à mettre toutes les chances de notre côté. Si on prépare une mission de secours en montagne, eh bien, on est entraîné, on vérifie son matériel. Si on prépare une intervention sur quelqu'un de dangereux qu'il faut aller interpeller, eh bien, pareil, on se prépare. Et je crois que pour être en relation avec cette empathie, avec les personnes que nous avons en face de nous, eh bien, il faut s'y préparer. Il faut se préparer et puis il faut savoir aussi, dans cette préparation, de temps en temps se dire « Non, là, je ne suis pas en état. C'est pas moi qui peux annoncer ce décès-là. Je vais trop m'excuser, justement. L'enfant qui est décédé, il a l'âge de mes enfants. C'est un exemple qui pouvait arriver, malheureusement. Je vais demander de l'aide à mon supérieur, à un camarade. Et je vais peut-être dire que j'ai pas la qualification ou l'état pour faire la mission. Et en fait, c'est comme toute mission. Voilà, on se prépare au maximum et on évalue à chaque fois si on a la capacité de le faire.
L'esprit est donné par le chef, dans l'armée en particulier. Est-ce que vous diriez que les gens qui sont sous vos ordres sont particulièrement incités à vivre cette empathie par rapport à d'autres pelotons, par rapport à d'autres contextes?
La gendarmerie, c'est sa définition, c'est même sa devise, c'est une force humaine. Et donc, dans notre métier, en particulier dans la gendarmerie départementale, où on est au contact au quotidien des gens, il faut une part d'humanité importante. Et effectivement, la place des chefs est importante pour inciter à ce contact avec les gens, à cette humanité. Mais, quels que soient les chefs, ça restera d'abord une affaire individuelle. On aura toujours des personnalités différentes d'un gendarme à l'autre, et un effort et un apprentissage aussi, je crois, au cours d'une carrière.
Sur l'apprentissage, vous évoquez l'apprentissage initial. C'est clair que rien ne prépare véritablement à être confronté à la mort d'autrui, surtout, comme vous l'avez dit, des morts violentes. Quand on prend en compte l'annonce d'un décès, qui est, on l'imagine, une des situations les pires, et vous en racontez dans votre livre certaines, au fond, est-ce qu'on peut dire que rien ne prépare à cela et qu'il faut y aller avec qui on est? Ou est-ce qu'il y a des choses quand même qu'on vous apprend?
On apprend des choses et on a d'ailleurs mis en place récemment une formation bien plus large sur ces choses-là. Et la première des choses qu'on apprend, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est à préparer la mission. Préparer, ça veut dire on prépare nos mots. On prépare les mots qu'on va dire, on utilise une certaine progressivité pour annoncer les choses. On ne sonne pas chez les gens pour dire « Bonjour, vous êtes la maman d'un tel et je vous annonce qu'il est mort ». On contextualise, on vérifie qu'on a affaire à la bonne personne, parce qu'évidemment, on ne va pas annoncer un décès à la mauvaise personne. Et on annonce les choses avec une certaine progressivité.
On n'a pas toujours ce recul. Dans votre récit de cet enfant qui meurt subitement d'un arrêt cardiaque sur le parking d'un supermarché, votre collègue qui va rencontrer la grand-mère, on sent que là, il est vraiment dans l'extrême difficulté de cette annonce, sans y être vraiment du tout préparé, non ? C'est des cas extrêmes, bien sûr, mais...
Alors, au seul passage du livre que je n'ai pas vécu moi-même, donc ouais. Je ne vais peut-être pas le commenter à votre mesure. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, et il l'emmène... Ouais. Et en fait, il fait ça parce qu'il n'avait pas du tout préparé. Mmh. Il se retrouve face à quelqu'un qui n'avait pas du tout anticipé. Il ne savait pas du tout que la grand-mère de cet enfant était au domicile où il se rendait pour d'autres raisons de l'enquête. Et du coup, confronté à cette personne, il fait un choix en se disant, si c'était ma grand-mère, voilà, je pense que j'emmènerais. Et puis, je veux pas lui dire non.
C'est l'élan du cœur. C'est l'élan du cœur.
Il fait un choix totalement du cœur, totalement humain, mais un choix qui est difficile d'ailleurs. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance de préparer ça et d'anticiper les choses quand on peut le faire. Parce que là malheureusement, il n'a pas pu se préparer à cette annonce.
Parmi les récits, il y en a un qui m'a touché, c'est celui de la mort de ce Samuel, ce jeune homme qui, avec un camarade, randonne sur les hauteurs au-dessus de Grenoble et qui va être victime d'un accident de chasse. Alors, ça nous confronte à la mort violente, la mort totalement imprévisible et, en l'occurrence, vraiment totalement absurde. Et j'ai envie de vous demander, à vous, personnellement, qu'est-ce que l'expérience de cette fragilité de la vie change dans votre vie ?
Effectivement, la mort de Samuel, elle est très touchante et ça m'amène à vous dire, si vous permettez, qu'il y a quelque chose de contre-intuitif dans ce décès. C'est que si Samuel était aussi fort dans mes souvenirs, c'est parce que, bien que sa mort soit violente et brutale, il avait encore l'apparence de quelqu'un de beau et de vivant lorsque je l'ai vu. Et on imagine souvent que ce sont les morts les plus violentes, les plus sanglantes, qui sont peut-être les plus difficiles à vivre. Et mon constat, mon expérience, et je la partage avec un certain nombre de camarades de la gendarmerie, c'est que c'est plutôt l'inverse. C'est que les scènes les plus déshumanisantes pour la personne décédée ne sont pas forcément celles qui vont nous toucher le plus. Et je crois que c'est ça que je garde, en fait. C'est que les souvenirs et les personnes qui m'ont le plus marqué et avec lesquels je vis encore aujourd'hui, c'est pas forcément les visages des personnes décédées, mais c'est plutôt tout ce qui nous rappelle la vie, tout ce qui nous rappelle la souffrance de la personne qui est décédée, ou plus souvent encore, la souffrance des proches à qui on annonce le décès, le cri de douleur de la maman à qui j'annonce le décès de son mari dans un autre chapitre. Et effectivement, on prend conscience de cette fragilité, et on a envie de l'accompagner quelque part.
J'ai trouvé très juste aussi ce que vous dites sur la dignité. Alors, vous l'évoquez, la dignité du mort, enfin, le respect du corps, et vous l'évoquez dans la situation la pire qu'on puisse imaginer, puisqu'il s'agit d'un suicide sur la voie ferrée. Et vous évoquez le fait de ces fameux draps blancs, il en faut plusieurs, voilà. Je ne rentre pas dans les détails, mais je veux dire, c'est important aussi que vous marquiez que vous êtes acteur du respect de cette dignité, même dans les situations les plus abominables que génère malheureusement en l'espèce... La déception amoureuse, enfin le drame que ça peut susciter chez des vivants.
Oui, alors c'est pas toujours facile de tout faire à la fois dans nos enquêtes, puisque là souvent il s'agit d'enquêtes, pour respecter la dignité de la personne décédée. Les médecins disent aussi, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur des autopsies, c'est pas quelque chose de très agréable à voir, m'ont frappé par la dignité avec laquelle ils traitent le corps humain. C'est quelque chose de très important. C'est important pour la personne décédée, c'est important pour la famille aussi, à qui on va pouvoir, dans certaines circonstances, présenter le corps. Et c'est important aussi pour simplement les passants, les badauds qui vont être autour. Donc on essaye tous collectivement, les pompes funèbres, les médecins, le SAMU, les pompiers, les gendarmes, les policiers, de veiller cette dignité. Et je crois que pour nous, enquêteurs de la gendarmerie, c'est aussi la continuité de toutes les enquêtes qu'on fait qui visent à protéger la personne qui est décédée. En fait, c'est paradoxal, mais dans nos enquêtes, on protège la société. Et quand on enquête pour savoir si une personne est décédée de façon naturelle, d'un suicide ou accidentel, et s'il y a une responsabilité à chercher, parce que parfois ça peut aussi être criminel, eh bien, on est là, finalement, pour défendre la vie de la personne qui est décédée et défendre la vie en général.
Un mot, pas plus, mais je suis désolé de ne pas avoir plus de temps pour vous en parler, mais j'ai reçu ici Julie Grande, sauvée héroïquement par Arnaud Beltrame. Quelle place tient ce sacrifice dans l'état d'esprit de la gendarmerie aujourd'hui ?
Arnaud, il laisse un souvenir immense. La caserne que j'ai la chance de diriger aujourd'hui vient d'avoir une rue baptisée juste devant, qui s'appelle rue Beltrame, et on a eu à cette occasion beaucoup de témoignages, beaucoup de souvenirs, beaucoup de personnes qui sont venues, et je crois que c'est partagé au sein de toute l'institution. Le héros du quotidien, qui est le gendarme départemental, il est transcendé par ce héros national, qui est Arnaud Beltrame, et qui mérite cette place héroïque et qui mérite d'être de la reconnaissance et le souvenir de la nation.
Merci Rémi Nollet. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Face à la mort, le témoignage inédit d'un gendarme aux éditions du Rocher. Au revoir.
Merci à vous.
Nous continuons nos programmes avec Halte spirituelle, Véronique Elzieu.
Tell me how to be more like you today, more than a shell of me. Couldn't say who I am right now. Tell me how to keep the time from sticking around. After you go home, doing fine, like I always am. Am I that good of a liar that I believe myself again? And it all falls down on you at the same time. Yeah, it all falls down on you at the same time. Was a panic attack. I can't stop the time from moving.
Halte spirituelle, présentée par Véronique Elzieu.
Pour conclure cette série d'entretiens, Monseigneur de Quesel, j'aimerais qu'on s'appuie sur le dernier chapitre de votre livre, où vous résumez en quelque sorte votre propos en proposant quatre pistes.
Oui.
Qu'on a déjà.